OK, si vous voulez me suivre, voulez vous lever en même temps, on va lire les 18 premiers versets du premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Jean 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. » Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, je vais vous asseoir. Alors, on va reviser rapidement les deux premières leçons. Alors, c'est dans notre troisième sermon sur ce passage-là, qui est un passage très riche. On pourrait, je pense, en faire beaucoup plus que ça, si on voudrait vraiment approfondir. Alors, je vous rappelle qu'on l'avait intitulé « Le grand mystère de l'incarnation ». L'incarnation, c'est simplement le fait que Dieu, le Fils, donc Dieu le Fils a les mêmes attributs que Dieu le Père et que Dieu le Saint-Esprit, a voulu venir sur cette terre et s'incarner dans une chair d'homme. Donc, l'homme, Dieu s'est incarné dans une chair d'homme. Donc, quand Marie a donné naissance au Christ, c'était un corps d'homme qui était sans péché. Pourquoi était-il sans péché? À cause du fait que Marie n'avait pas eu l'enfant selon les méthodes naturelles. Aujourd'hui, pour qu'une femme ait un enfant, il faut qu'il y ait une union d'un homme et d'une femme. Mais avec Jésus-Christ, ce n'était pas l'union d'un homme et d'une femme, c'était le Saint-Esprit qui a voulu donner un corps à la personne de Jésus-Christ lorsqu'il est venu au monde comme bébé. Il était... Il avait toutes les caractéristiques parfaites d'un être humain, mais il avait une caractéristique très particulière. Il était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et on va voir que pour que le salut qu'on a reçu puisse se réaliser, il fallait qu'il ait les deux. Il fallait qu'il soit pleinement Dieu et il fallait qu'il soit pleinement homme. On va réviser un petit peu ces deux notions-là. Pourquoi fallait-il que Jésus, le Christ, le Sauveur, pourquoi fallait-il qu'il soit pleinement Dieu lorsqu'il s'est présenté dans une chair d'homme? Et aussi, pourquoi fallait-il qu'il soit... Est-ce que Dieu aurait pu sauver les êtres humains que nous sommes, les pécheurs que nous sommes, s'il n'avait pas été pleinement homme? Des fois, on ne réfléchit pas souvent à ça, là, et on a besoin de le faire parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend de cette façon-là. Donc, on apprend que Dieu, Jésus, était la plénitude de Dieu. On l'a dans Colossiens, chapitre 2, les versets 2 et 3, et les versets 8 et 9. « Afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble dans la charité, pour être enrichi d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ. On parle de mystère à la fois pour Dieu le Père et à la fois pour la personne de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire que dans la personne de Christ, tous les trésors de la sagesse et de la science sont renfermés en lui. Et le verset 8 et 9, « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ, car en lui, on parle de Christ dans le passage, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. » Donc, le mystère de la Trinité, c'est vraiment de comprendre que dans la personne de Jésus, quand il est venu au monde comme bébé, déjà la Trinité, la seconde personne de la Trinité habitait le corps qui est venu au monde, le bébé. Et il a grandi comme ça durant toute sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, il a mené une vie assez cachée durant 30 ans, mais à partir de 30 ans jusqu'à 33 ans, il a mené sa vie publique. Et là, les gens, les apôtres même, qui lui ont vu faire une multitude de miracles, et qui voyaient bien que c'était un personnage qui n'était pas comme les autres, ça lui a pris une éternité à mettre comprendre qui était devant lui, qui était devant eux. Il croyait que c'était uniquement un homme. Ça a pris la résurrection et ça a pris même l'apparition de Jésus qui leur a apparu à plusieurs fois pour qu'ils commencent à comprendre. Alors ça a été long. Alors Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre pour s'incarner dans une chair d'homme, il était pleinement Dieu. Quand on dit pleinement Dieu, ce qu'il faudrait faire là, pour vraiment réaliser, quand je vous dis qu'il y a plusieurs sermons à faire avec ça, oui, il y aurait plusieurs sermons à faire, parce que pour réaliser qu'il était pleinement Dieu, il faudrait aller dans un livre de théologie et sortir tous les attributs de Dieu, un par un, il y en a au moins 25-30, c'est pas plus, là, et se rendre compte que les attributs de Dieu étaient en Jésus et qu'il les possédait de façon infinie, de la même manière que le Père. Infiniment bon, infiniment aimable, infiniment gracieux, infiniment puissant, et etc. Là. C'était ce Dieu le Fils qui avait les mêmes attributs que Dieu le Père et le Saint-Esprit qui s'incarnait dans une chair d'homme. Et le début du texte nous rappelle que ce Jésus-là était préexistant. Avant même qu'il vienne s'incarner dans une chair d'homme, il était Dieu le Fils, mais il existait avant. Et il existait même, on vient même de donner le qualificatif de « il vivait éternellement ». Il était pleinement Dieu et il était pleinement Dieu éternel. Ça dépasse notre capacité de compréhension. Qui d'entre nous comprend c'est quoi la grâce de Dieu? Quand on dit la grâce infinie de Dieu, l'amour infini de Dieu, quand on dit que l'éternité ne suffira pas pour la découvrir pleinement, juste un attribut, puis nous au moins de 30 ans, comment on peut comprendre la grandeur de celui qui s'est incarné, qui est venu dans... C'est extraordinaire. Donc, il était préexistant, il existait avant qu'il vienne dans une chair d'homme, et il existait de façon éternelle. Donc, il était l'éternel Dieu le Fils qui vivait éternellement avec le Père. Il était aussi, selon ça dit dans le verset 3 de Jean 1, il était le Créateur. Le Créateur, ça dit, toutes choses ont été faites par elle. Par elle, il parle de la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait sans elle. Est-ce que les poissons ont été faits par Jésus-Christ? Oui. Est-ce que les oiseaux ont été faits par Jésus-Christ? Oui. Est-ce que les planètes ont été faites par Jésus-Christ? Oui. Est-ce que les étoiles ont été faites par Jésus-Christ? L'autre jour, on a calculé, on disait que dans la Voie lactée, il y avait 10 milliards d'étoiles dans notre galaxie, qui est la Voie lactée. Mais il existe 10 milliards de galaxies contenant chacune 10 milliards d'étoiles. Et la Bible nous dit dans le psaume 46 que Dieu les connaît, qu'il leur a toutes donné des noms. On a-tu une idée de la grandeur de la personne de Christ? Il est le Créateur, au même titre que Dieu le Père et que Dieu le Saint-Esprit. Parce que dans la création, les trois personnes étaient actives. Donc, il était lui aussi dans cette création-là. Et c'est ce personnage-là qui est venu sur la terre, qui s'est incarné dans une chair d'homme. Il était le Créateur, il était Dieu existant éternellement. Dans Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17, ça dit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. » Il est en train de parler de quoi, là? Il est en train de parler des anges. Donc, dans la création, c'est tout ce qu'on voit, mais tout ce qu'on ne voit pas aussi, les choses visibles et les choses invisibles. Dieu a créé les anges. Jésus a créé les anges. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Jésus maintient la création, toute la création qui existe, là, les poissons, les oiseaux, les animaux, les planètes, les anges. Toutes choses, ces choses-là subsistent, ça veut dire qu'ils sont maintenus à l'existence par Jésus-Christ, sa puissance. Ça prend-tu de la puissance pour maintenir tout ça à l'existence? Et c'est ça que la Bible nous dit que Jésus est. Il est celui qui maintient toute chose à l'existence. Et dans le verset 4 et 5, il nous rappelle quelque chose aussi par rapport à ce Jésus-Dieu-là. Il dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière à lui dans les ténèbres ne l'ont point vu. » Quand il est venu sur la terre, il s'est présenté au peuple juif comme étant leur Messie, comme étant leur roi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont pensé que c'était un imposteur. Ils l'ont même accusé d'être possédé du démon. Il n'y a pas rien qu'ils n'ont pas dit. Puis il n'y a pas rien qu'ils n'ont pas fait. À quelque part, le peuple juif était rendu profondément endormi. Parce qu'il savait des choses. Comme quand Jésus est venu au monde, il savait qui viendrait au monde à Bethléem. Parce que quand ils ont interrogé, ils ont dit, où va-t-il naître? Ils savaient. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi, qu'il y a plus petite entre les nations. Ils savaient. Comment ça se fait quand ils ne l'ont pas reconnu? C'est parce qu'ils dormaient sur la switch, comme on dit en québécois. Alors la réponse, pourquoi était-il nécessaire que Jésus-Christ soit pleinement Dieu? On l'avait lu, la première leçon, je la revise rapidement, parce que c'est important qu'on fasse le lien entre les deux parties. C'est le théologien Wayne Grudem, dans son livre, qui nous dit pourquoi il était nécessaire que Jésus-Christ soit pleinement Dieu. Il dit « Il convient ici de reconnaître qu'il est très important d'insister aussi sur la pleine divinité du Christ, non seulement parce qu'il est clairement enseigné dans l'Écriture, mais aussi parce que seul quelqu'un qui est un Dieu infini pouvait porter les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. » Autrement dit, comment pouvait-il porter la punition qui était due à mes péchés et à vos péchés et aux péchés de tous les hommes sauvés de toutes les époques, de tous les temps? S'il n'était pas pleinement Dieu, sa chair humaine, son corps humain, aurait été incapable de subir une punition de cette ampleur-là. Il fallait la nature divine pour supporter l'ensemble de ces souffrances-là qui étaient dans la chair de Jésus-Christ, dans son corps. Mais il fallait que ça soit Dieu pour soutenir qu'il reste en vie durant le temps qu'il a subi. Oui, c'était nécessaire. Deuxièmement, le salut vient de l'Éternel, comme ça le dit dans Jonas, chapitre 2, verset 10, et tout le message de l'Écriture tend à montrer qu'aucun être humain, aucune créature n'aurait pu sauver l'homme si Dieu ne l'avait pas fait. Tom a dit, il fallait qu'il soit Dieu, sinon un homme, on n'aura pas pu obtenir le salut par l'intermédiaire d'un homme, aussi grand soit-il. Comment il aurait été un prophète, ça n'aurait pas été suffisant. Troisièmement, seul quelqu'un qui était vraiment et pleinement Dieu pouvait servir de médiateur entre Dieu et l'homme. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. À la fois pour nous ramener à Dieu et pour nous le révéler plus clairement. Alors, par conséquent, si Jésus n'est pas pleinement Dieu, nous ne sommes pas sauvés et le christianisme s'écroule. Il faut réaliser ça, là, mes amis, parce que quand il se produit des gens chez vous, à votre porte, qui viennent vous enseigner que des témoins de Jéhovah, par exemple. Et, il n'est pas le seul, il y a les Unitariens aux États-Unis, il y a plein d'autres hérétiques, mais entre autres, ils viennent vous dire ça, que Jésus n'était pas Dieu, qu'il était un ange. Donc, ils font du Créateur une créature. C'est blasphématoire, et non seulement c'est blasphématoire, mais si vous croyez ce qu'ils vous disent, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce qu'il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir supporter la punition qui aurait dû être la nôtre. Alors, tout s'écroule. Et ce n'est pas un hasard si, à travers l'histoire, les groupes qui ont rejeté la pleine divinité du Christ ne sont pas restés longtemps dans le giron de la foi chrétienne, mais ont rapidement dérivé par des religions comme l'unitarisme aux États-Unis et ailleurs, et les témoins de Jéhovah. Parce que dans 1 Jean, chapitre 2, verset 23, ça dit « Tout homme qui nie que Jésus est le fils de Dieu dans le sens, là, la deuxième personne de la Trinité, ne connaît pas non plus le Père. Mm-hmm. » C'est clair, ça. Moi, je trouve ça d'une clarté limpide. « Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Et celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. » C'est important de réaliser pourquoi c'était important que Jésus-Christ soit pleinement Dieu. La semaine dernière, on avait fait « Pourquoi Dieu soit pleinement homme ?» On revise rapidement. Dieu avait dit que quand il enverrait son Fils, il enverrait un témoin avant, et c'était Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste est venu, il l'a reconnu que c'était pas lui le Messie, parce qu'il y avait un petit peu de confusion à l'époque. Ils ont pensé que c'était lui, ils ont posé la question, il a dit « Non, c'est pour moi, il est avant moi et il est plus que moi. » Il reconnaissait les deux. Il reconnaissait sa préexistence et il reconnaissait sa prééminence dans le sens qu'il était beaucoup plus puissant que lui. C'était comme, tu compares une créature avec Dieu. Il réalisait pleinement que lui, même s'il était, les Écritures disent de lui qu'il était le plus grand prophète qu'il y a eu de tous les temps, Jean-Baptiste, ben il disait, moi je suis plus petit que le Christ, et il existait avant moi. Il reconnaît sa divinité. Donc, l'avertissement de Jean-Baptiste sur son humanité, versets 9 à 12, il dit, « La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde ne l'a pas connu, il est venu chez les siens, donc chez les Juifs, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. » C'est qui ça? C'est nous, c'est les apôtres, c'est ceux qui ont cru en lui lors de sa première venue. « Il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. » Si on est des enfants de Dieu, aujourd'hui, le mot « enfant de Dieu », il est charrié de tous bords, de tous côtés. Des personnes qui rentrent dans des églises catholiques, et le curé les voit rentrer n'importe comment, ils ont mené une vie de débauche la veille, puis il y en a qui vont dire « Vous êtes les enfants de Dieu! » Je peux vous donner des exemples, je pourrais même vous donner des noms à Sherbrooke, ça se fait. On n'est pas des enfants de Dieu si on mène des vues n'importe comment. On n'est pas des enfants de Dieu si on ne connaît pas Christ tel qu'il est enseigné dans les Écritures. Alors, il est en train de rappeler que Christ était la véritable lumière, que Christ est venu sur la terre avec eux, qu'il a vécu avec eux. Il est venu vers Israël, il a été rejeté par le peuple d'Israël. Mais il dit aussi qu'un reste, dans le verset 12, l'a reçu. Un reste a reconnu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils ont compris qui était. Il était vraiment le Messie annoncé depuis tout l'Ancien Testament. Alors, Jean-Baptiste, dans le verset 13 et 14, nous rappelle un fait très important concernant la régénération. Quand il nous dit qu'ils ne sont, il parle des enfants de Dieu, puis il dit qu'ils ne sont pas nés du sang. Il est en train de dire qu'on ne devient pas chrétien parce que ton père est chrétien. On ne devient pas chrétien parce que mon oncle est chrétien, puis on ne devient pas chrétien parce que ton père est pasteur, ou quoi que ce soit. Là. Il dit non pas du sang, le sang c'est humain. Ni de la volonté de la chair. Autrement dit, c'est pas parce que quelqu'un dit « moi je veux devenir un enfant de Dieu » qu'il va le devenir. Ça vient pas de la chair, ça vient de Dieu, comme ça dit dans le texte. Et ça dit « mais de Dieu ». Qui ne sont point nés du sang, sont nés de Dieu. Donc, la nouvelle naissance qu'on enseigne dans les Écritures, c'est Dieu qui donne la vie à un être qui n'est pas régénéré, qui est pécheur et qui lui fait comprendre qui il est, où il s'en va et par quel moyen il peut se sortir de la situation dans laquelle il est. Et dans le verset 14, c'est là qu'on parle de l'incarnation. Parce qu'on vient de le présenter. Après ça, dans le verset 14, il dit « Et la parole, parle de Jésus, deuxième personne de la Trinité, a été faite chair. » Donc, il est devenu un homme. Et elle a habité parmi nous. Jean, il disait ça au moment où que lui, le Christ, était déjà parti. Lui, il l'avait vu. Il l'avait vu, il avait voyagé pendant 3 ans avec. Et même, il l'avait vu parce que Pierre, Jean-Jacques, il l'avait vu dans sa gloire sur le mont de... Quand ils l'ont vu, là... Alors, ils l'ont vu, comme il dit, « Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Nous avons contemplé sa gloire sur le mont de la transsubstantiation. Pas la transsubstantiation, la transfiguration, excusez-moi. La transfiguration. Autrement dit, quand ils sont allés sur la montagne, Dieu a permis que les trois personnes, Pierre et Jean et Jacques, voit la véritable nature, la véritable qui était Jésus-Christ. Ils l'ont vu. Puis c'est pour ça qu'ils disent un petit peu plus loin dans les Écritures, nous l'avons vu de nos yeux. Alors, la régénération et l'adoption. Et 1 Timothée 3,16, c'est intéressant aussi. Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, la contemplation de sa gloire par certains de ses disciples, ça s'est fait sur la transfiguration. Maintenant, ça se dit que par lui, on a reçu grâce sur grâce et on a reçu la vérité de Dieu. Maintenant, la question suivante est très intéressante, j'ai été rendu là la semaine passée. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus-Christ soit pleinement homme? Est-ce que le salut aurait été possible si Jésus n'aurait pas été pleinement homme? Mais si je vous dis, nommez-moi donc les raisons. Oh, là on bloque un peu, hein? On bloque parce que c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement étudiées, mais qu'on a besoin d'étudier. Autant savoir pourquoi il fallait qu'il soit pleinement Dieu, autant il faut savoir pourquoi il fallait qu'il soit pleinement homme. Il y en a 7 raisons que Wayne Grudem y donne dans sa théologie systématique. On vous les nommer. Pour nous représenter et pour obéir à notre place, il fallait que pour qu'on puisse recevoir les bénéfices du salut, qu'il y ait quelqu'un qui nous représentait et devenait notre représentant. Quand on dit un représentant d'une compagnie, hein, il représente la compagnie. Donc, il fallait qu'il soit notre représentant et il fallait qu'il fasse les choses à notre place, comme homme. Parce que nous, c'est comme homme qu'il fallait faire ça. Donc, il fallait qu'il soit un homme pour être capable de nous représenter et d'obéir à notre place. Dans les deux sens, obéir en prenant punition, obéir en accomplissant ce que Dieu demandait dans la loi. Deuxième raison, c'est pour être un sacrifice substitutif. Autrement dit, il fallait que la punition, Dieu la donne à quelqu'un. La mienne, la vôtre, celle de tous les êtres humains sauvés de toutes les époques. Il fallait que Jésus-Christ soit un sacrifice substitutif. Autrement dit, il fallait que la colère de Dieu se déverse sur le représentant. Il la reçoive comme s'il l'aurait eu personnellement, comme s'il avait eu péché lui-même, il avait péché. Mais comme si. Donc, un sacrifice substitutif. Donc, il s'est substitué à nous pour recevoir le châtiment. Il s'est substitué à nous pour accomplir la loi parfaite comme Dieu le voulait. Troisième raison, pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, on s'en va avec l'écuménisme, là, le grand mouvement international qui se produit, là, comme de quoi on est en train de dire que toutes les religions mènent à Dieu. Donc, ils sont en train de dire qu'il y a plus qu'un médiateur entre Dieu et les hommes. Les Écritures nous disent quoi? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus le Christ. Alors, une religion sans Christ est une religion qui te mène en enfer. Même si aujourd'hui on tend à dire « Ah, tous les chemins mènent au ciel. » Pas vrai! Il faut être réveillé parce que c'est là qu'on est rendu. Là. Ils cherchent à nous emmener dans leur giron. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, selon les Écritures. Quatrièmement, pour accomplir le dessein originel de Dieu pour l'homme de gouverner sa création. Dieu, au départ, voulait que ce soit l'homme qui gouverne sa création. Et il est en train de réaliser cela. Un jour, on va la gouverner, la création. Cinquièmement, pour être un exemple et un modèle pour nous, il fallait qu'on puisse voir quelqu'un qui était pleinement homme, qui est capable d'obéir à Dieu dans toutes ses dimensions et d'une façon parfaite. Nous, on n'est pas capable d'obéir parfaite, on ne l'aura jamais. Mais un exemple, il nous donne un exemple. Autrement dit, aujourd'hui, les gens ont besoin de voir des exemples, ont besoin de voir des modèles. On a tous besoin de voir des modèles. Quand on lit une vie d'une personne sainte, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous en avez déjà lu, là, des biographies d'hommes et de femmes saints, ça nous inspire. Parce qu'on se dit, ah, un homme est capable de faire ça. Même des affaires qu'on pense qu'on n'aurait jamais été capable, ils sont capables. Pourquoi ils sont capables? Ils deviennent un modèle. Ils deviennent des... On a tous besoin de modèles. Et le meilleur modèle qu'on a dans les Écritures, bien, c'est la personne de Christ, parce que lui, il était un modèle parfait. Tout ce qu'il a fait... Il a pensé correctement, il a parlé correctement, il a agi correctement. C'est un parfait modèle. Si on veut savoir comment agir dans la vie, regarde la vie de Christ, tu ne te tromperas pas. Sixièmement, pour être le modèle de notre propre résurrection corporelle. Autrement dit, quand Dieu a ressuscité Jésus, il est le premier-né d'entre les morts et il va devenir aussi un modèle pour nous dans le sens que nous aussi, on va finir par avoir ce corps-là, que le corps spirituel, comme ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, où nous dit que le corps que Christ a eu lors de sa résurrection, nous aussi, on va l'avoir. Et le septième, c'est pour compatir en qualité de grand prêtre, il peut secourir, comme ça dit dans les Écritures, ceux qui sont éprouvés. On parlait d'épreuve ce matin. Qui peut mieux comprendre que Jésus-Christ l'épreuve? Il l'a-tu eu, l'épreuve, qui est venu sur la terre? Il est capable de comprendre quelque épreuve qu'on traverse. Là, ici, il y a 7 raisons. Et peut-être qu'il y en a plus que ça. Ça, c'est ceux que Grudem a trouvé. Il a déjà fait pas mal une bonne job, comme on dit. Alors, les retenir, c'est autre chose. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il fallait que Jésus-Christ soit pleinement Dieu. Et il fallait que Jésus-Christ soit pleinement homme pour ces raisons-là. Troisième point, on était rendu au verset 15 à 18. Jean 1, verset 15 à 18. Jean lui rendit témoignage lorsqu'il s'écria en disant, « C'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi parce qu'il était avant moi. » Il reconnaît que Christ est au-dessus de lui, puis il reconnaît que Christ était là bien avant lui, parce que Christ était éternel. Et verset 16, nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est intéressant des fois d'aller voir les mots grecs, parce que quand on utilise des commentateurs, ils font prendre conscience de certaines choses qui sont dans le texte, mais qu'on ne voit pas nécessairement à cause de la traduction. C'est pour ça que ça rend ceux qui traduisent la Bible, c'est une œuvre si difficile. Le mot « s'écria » dans le verset 15, le premier lui rendit témoignage lorsqu'il s'écria en disant. Ben, le mot grec, c'est « kratzo », K-R-A-Z-O. Et ça signifie proclamer, voire même crier avec force et autorité. Si vous entendez quelqu'un là, crier danger, puis qu'il crie avec une force, puis une intensité très importante, il crie danger, ça attire-tu notre attention un petit peu? C'est ça qu'il est en train de dire. Quand il dit « c'est écrié », il criait. Que celui qui vient, c'est le Messie, c'est le Christ. C'est ça qu'il faisait. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament criaient au peuple pour leur montrer leurs péchés. Le prophète du Nouveau Testament, qui était Jean-Baptiste, lui, il criait pour montrer le Sauveur aux pécheurs. Mm-hmm. Vous voyez la différence? Dans l'Ancien Testament, les prophètes criaient pour montrer aux gens leurs péchés. Mm-hmm. Dans le Nouveau Testament, le dernier, le plus grand des prophètes, a dit pour montrer le Sauveur aux pécheurs. C'est extraordinaire. Donc, Jean-Baptiste reconnaît la suprématie et la prééminence du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même pour deux raisons. Il le dit. Christ est au-dessus de lui, donc il reconnaît que son rang, lui c'est un rang de créature, l'autre c'est le rang de créateur avec tous les attributs divins. Et il est même avant lui, quand il dit avant lui, bien sûr il reconnaît son éternité. OK. Il reconnaît dans le verset que Jésus-Christ, il devient le révélateur du Père. Qu'est-ce que c'est un révélateur? Disons que vous preniez des photos, le monde qui a fait des photos dans l'ancien, il y a quelques années, là, c'était plus comme aujourd'hui, là, c'était pas des, c'était qu'il fallait qu'ils mettent ça dans un bain d'acide, qu'ils appellent. Là, de temps en temps, c'était l'acide qui finissait par révéler l'image. Ben, Christ, quand il est venu sur la terre, il était le révélateur de qui? Du Père. C'est ça que ça dit dans le texte. Jean 14, versets 8 à 11. Quand Jésus parlait avec Philippe, Philippe lui a dit, « Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment donc, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Croyez-moi quand je vous dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres mêmes. Autrement dit, t'es en train de dire, crois-moi à cause de ce que j'ai fait, de ce que je suis. Mais si tu ne me crois pas à cause de ce que je dis, crois-moi au moins en observant ce que je fais. C'est pour ça qu'il leur disait. Alors, trois applications pour le texte d'aujourd'hui. Et en passant, le chapitre 8 de la Confession de foi baptiste de Londres résume d'une manière magistrale tout ce qu'on vient de voir là, en détail, avec un paquet de versets. Je ne saurais vous recommander trop de relire le chapitre 8 qui s'appelle « Le Christ médiateur ». Je l'ai mis pour ceux qui voudront imprimer, là. Je les ai imprimés sur la leçon. Ça s'appelle « Le Christ médiateur ». Il y a 10 paragraphes. Ça s'appelle « Le Christ médiateur ». Ça vient de résumer tout ce qu'on vient de regarder un petit peu. C'est très, très bien écrit. C'est écrit par des personnes qui ont réfléchi à parler. Ils n'ont pas écrit n'importe quoi. Ils ont tout appuyé leur dire par des choses scripturaires. Mais quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de cette reconnaissance-là aujourd'hui que Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il était pleinement Dieu, il était pleinement homme? Quelles sont les applications? Autrement dit, que ça change dans nos vies? Premièrement, nous sommes bénis et privilégiés d'avoir Jésus-Christ comme médiateur. Comme il est pleinement Dieu, il finira l'œuvre du salut qu'il a commencé pour nous. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir que le salut est une œuvre divine. Parce que quand Dieu commence quelque chose, il se rend jusqu'au bout. Alors, c'est lui qui a commencé l'œuvre dans ton cœur, c'est lui qui va te rendre jusqu'au bout. Si tu es un véritable enfant de Dieu. Ça, c'est important, là, de réaliser que le salut est une œuvre divine. Donc, Jésus-Christ était Dieu, quand il est venu sur la terre, il a fait une œuvre qui était... Et c'est solide. C'est ça qui est merveilleux avec le salut, parce que quand on comprend que c'est une œuvre divine, on arrête de douter qu'on n'est pas sauvé à cause de notre comportement. Ça ne veut pas dire que ça m'autorise à amener une vie n'importe comment, là. Mais ça l'a pour besoin que quand le démon vient m'attaquer, puis vient dire, garde-toi donc, là. Tu te penses un enfant de Dieu, garde-toi aller. Tu passes ton temps à tomber, tu passes ton temps à me faire honte, Mais là, si on regarde notre nombril et qu'on ne se tourne pas les yeux vers Jésus-Christ et qu'on ne se rappelle pas ces vérités-là, bien là, le malin, il nous a dans ses griffes. Il est en train de nous faire douter de notre salut à cause de notre comportement. Il faut toujours relever les yeux et retourner à Jésus-Christ. Ce n'est que là qu'on retrouve notre paix. Deuxième chose, deuxième application, le Seigneur Jésus-Christ a été pleinement homme. Il a accepté volontairement de subir l'équivalent du terrible châtiment que nous aurions dû recevoir à notre place et d'accomplir aussi à la perfection la volonté de Dieu par l'obéissance parfaite de la loi à notre place. Je le dis quasiment des fois que je préside. Pourquoi je le dis si souvent? Parce que c'est tellement important que ça nous rentre dans le coco, ça. Tellement important. Il est aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il est où? Au ciel. Est-ce qu'il est encore dans un corps d'homme? Oui. Au ciel. Oui, il est au ciel dans un corps d'homme ressuscité. Alors, il est aujourd'hui au ciel et il intercède sans cesse. Quand tu dis sans cesse, ça veut dire que ça n'arrête pas. Il intercède pour chacun d'entre nous continuellement auprès du Père. Il veut dire des fois, il n'est pas fort lui, hein? Mais j'ai payé pour ce péché-là. Il n'est pas fidèle lui, hein? Mais j'ai payé pour ce péché-là. Il a payé pour tous les péchés. Il intercède continuellement. Donc, vivons pour lui exprimer notre reconnaissance et aussi pour lui apporter honneur et gloire. Troisième application. Seul Jésus-Christ pouvait assurer notre salut, puisqu'il fallait que le Rédempteur soit pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne. Ça, là, tous les théologiens qui ont commencé à étudier ce sujet-là, l'incarnation, il y en a un temps qu'ils se perdent. Pourquoi ils se perdent? C'est parce que c'est tellement grand. Quand tu te mets à réfléchir au fait que Dieu lui-même est venu s'incarner dans une chair d'homme, et là, quand les théologiens se mettent à examiner le type de problème que ça l'amène, ils deviennent... C'est gros, là. C'est pas une petite doctrine d'incarnation. C'est la plus grosse doctrine de toutes les Écritures. C'est ça que Grudem nous dit. Je conclue avec lui. Je vais vous donner ce que lui dit sur la doctrine de l'incarnation. Il dit, à la fin de cette longue discussion, on peut facilement perdre de vue ce qui est réellement enseigné dans l'Écriture. C'est de loin le miracle le plus extraordinaire de toute la Bible. Bien plus extraordinaire que la résurrection et même que la création de l'univers. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté un petit peu sur la doctrine de la création aussi. Quand on parle juste du nombre des étoiles, l'autre jour on parlait de une voie lactée, 1 milliard, 10 milliards d'étoiles, puis il y a 10 milliards de voies lactées, donc 10 milliards de voies lactées avec chacun 10 milliards d'étoiles. C'est gros la création, là. Tu te mets à réfléchir à la création dans toutes ses dimensions, les microbes, l'infiniment petit, l'infiniment grand, les poissons, les oiseaux, c'est gros, là. Mais c'est encore plus grand que ça. Il dit, le fait que le Fils de Dieu, infini, omnipotent et éternel, ait pu devenir homme et revêtir une nature humaine pour toujours, de sorte que le Dieu infini est devenu une seule personne avec l'homme, restera pour l'éternité le miracle le plus grand et le mystère le plus profond de tout l'univers. Si on pense qu'on a compris avec toi le son, là, m'excuse, mais on a encore du chemin à faire. On a tout du chemin à faire. C'est tellement gros, là, la doctrine de l'incarnation, pour étudier ça toute notre vie, puis on n'aura pas encore fini de comprendre toute la richesse qu'il y a là-dedans. En quelque part, c'est une doctrine extrêmement importante. Pourquoi on l'a faite un petit peu avant les fêtes? Parce que, justement, ça donne avec Noël, la nativité, et c'est important de réaliser tout ce qu'on a dit là. Mais je peux vous dire qu'on a juste effleuré le sujet. La doctrine, je suis d'accord avec ce qu'il dit à la fin, que c'est plus gros que la résurrection, puis c'est plus gros que la création. C'est pas une petite doctrine, l'incarnation. On veut vraiment aller en profondeur. Alors que notre glorieux Sauveur Jésus-Christ, pleinement Dieu et pleinement homme, l'homme-Dieu par lequel nous sommes sauvés, soit adoré, béni et loué éternellement. Amen.
Amen.